Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur les 10 erreurs à éviter quand vient la dispute. Bonjour, je sais que bien nombreux sont malheureusement les conjoints qui espèrent passer à côté de toute dispute, qu'il n'y ait pas de dispute dans le couple. Et ce faisant, ils se baladent dans les nuages, comme Heidi, vous savez. Non, c'est pas Heidi, je sais plus quel personnage dans un dessin animé qui se met sur les nuages, qui s'installe, qui se couche et se repose. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Vous aurez forcément des disputes. Et si vous n'avez pas de dispute, croyez-moi, ça sent mauvais. C'est difficile à croire. Il est difficile de supposer ou d'imaginer un couple dans lequel il n'y a pas de dispute, parce qu'en fait, la dispute fait partie de, non pas de la vie conjugale, mais de la réalité humaine. Ça veut dire qu'à partir du moment où on met deux personnes ensemble, donc deux, c'est un groupe, deux, trois, quatre et plus, il y a forcément des disputes. On est même capable de se disputer tout seul. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais c'est n'importe quoi. On est en train de se parler tout seul parce qu'on est en train de se disputer. C'est normal qu'on se dispute. On n'est pas forcément toujours d'accord déjà avec soi-même. Donc en couple, c'est tout à fait normal. Donc accueillir la dispute comme étant quelque chose de normal. Il est vrai que ce qui pose problème, généralement, c'est soit le mythe de la du couple sans dispute, c'est-à-dire qu'on ne se dispute pas, on ne se disputera pas parce que nous, ce n'est pas comme les autres. Ce qui est faux, on vient de le dire. Soit de se dire que si on se dispute, ça veut dire que ça ne va pas bien. Alors ça, c'est faux aussi. Les couples heureux se disputent. Seulement, ils disputent bien. Ils savent comment utiliser la dispute. Ils ne commettent pas les 10 erreurs que je vais vous présenter là, ici. Et puis l'autre point qui fait qu'on n'aime pas les disputes, c'est la crainte de la fréquence, c'est-à-dire une fréquence élevée. Alors une fréquence élevée, c'était très, très, très relatif à chaque couple. Parce qu'une dispute par semestre peut être trop élevée pour l'un et puis pour l'autre dire attends, on ne dispute jamais, on dispute deux fois par an, ça va. Voilà. Donc, à chaque couple de déterminer ce qui est trop élevé, à chaque individu de déterminer ce qui est trop élevé en termes de disputes dans son couple. Mais au-delà de la fréquence des disputes, peut-être que justement, si je prends conscience que je me dispute trop fréquemment dans mon couple, n'est-ce pas un signal pour me dire que mon couple a besoin de discuter davantage? Je rappelle juste que l'étymologie de disputer et discuter, c'est pareil. Au Moyen-Âge, on se réunissait pour une disputation, ce qui a donné la discussion. C'est donc une discussion dans laquelle il était prévu que les uns amènent des arguments, des points de vue, des regards différents de ceux des autres, et c'était là que c'était enrichissant, parce qu'on était déjà quelque part sur l'affiche de la rencontre, prévu qu'on ne soit pas d'accord. Prévoyez que dans votre couple, il y a des moments, il y a des sujets, il y a des zones sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous les prévoyez que ça vous paraît tout à fait évident, eh bien vous irez à la disputation conjugale en vous disant, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur certains points. J'aurais aimé qu'il soit d'accord ou qu'elle soit d'accord avec moi, mais j'entends que ce n'est pas le cas. Et c'est tout à fait normal parce qu'il ou elle n'est pas moi. Et finalement, peut-être que c'est une manière de prendre conscience du fait qu'on a le rêve de la fusion conjugale. De dire finalement, on est d'accord sur tout parce qu'on est les mêmes. Et là, j'ai une petite pensée pour du Walt Disney, quoi. Je vous propose de revenir sur la planète Terre et de nous arrêter sur les 10 erreurs à éviter quand vient la dispute en souhaitant vivement que vous accueillez la dispute comme étant un ingrédient à part entière dans la vie conjugale. Je ne dirais pas nécessaire, mais à part entière, et qui intervient comme un signal pour dire qu'il y a besoin de s'accorder. C'est comme si vous alliez à un concert, moi je suis allé voir Hélène Grimaud qui a joué le concerto pour la main gauche à la Cité de la Musique à Paris, c'était magnifique, avec un orchestre vraiment magnifique. Et imaginez qu'un orchestre rentre sur scène juste avant qu'Hélène Grimaud n'arrive, et que comme ils sont dans le mythe de se dire qu'on n'a pas besoin on n'aime pas la dispute, donc on n'a pas besoin de s'accorder finalement. Et puis quand le chef d'orchestre tape sur la baguette pour dire c'est parti, c'est une horreur. En fait, ce qu'on entend est une horreur. Parce qu'on a besoin que le hautbois donne le la, le A440 pour que tout le monde se mette d'accord. Et que enfin, quand on se met à jouer, là, ce soit beau. Imaginez que quand un orchestre, même un duo, s'accorde avant un concert, il entre en discussion pour éviter la dispute. En discussion interne. Chacun s'entend, chacun s'écoute. Quand j'accorde mon violon, je ne l'accorde pas en écoutant mon copain accorder son violoncelle. J'écoute ce que je fais, moi. Et lui écoute ce qu'il fait, lui, pour s'accorder lui-même par rapport à ce fameux A440. Quand lui estime que c'est bon et que moi j'estime que c'est bon, on vérifie éventuellement en accord et c'est parti. C'est important donc d'intégrer que j'ai besoin de m'entendre moi-même pour vivre la dispute et mon collaborateur, enfin on va dire mon conjoint dans ce cas-là, parce qu'on est dans la musique, a besoin de s'entendre lui-même pour entrer dans la rencontre et que c'est comme cela que l'on évite la dispute. Et que chaque dispute qui éclate, c'est un moment où on va réaccorder. D'ailleurs, il arrive fréquemment dans des concerts, en plein milieu d'un concert, à un moment ou à l'autre, on réaccorde. Alors parfois, on ne le voit pas, parce que quand c'est un guitariste, par exemple, il donne la guitare à un gars qui est dans la coulisse, il la lui réaccorde avant le morceau suivant. Mais on se réaccorde en plein concert pour éviter de disputer. Enfin, on se réaccorde presque, j'ai envie de dire, devant tout le monde. Parfois, on a besoin de s'accorder en couple devant tout le monde. Allez, on y va sur les 10 erreurs à éviter en cas de dispute. Et puis peut-être si je me rends compte que j'ai pas fini les 10 erreurs, ben, je ferai la suite pour la semaine prochaine. Tout simplement parce que je ne sais pas exactement. Moi, j'ai mis mes notes, mais je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Ce que j'ai fait, c'est que pour chacune des erreurs, j'ai cherché des objectifs. J'ai voulu vous verbaliser des objectifs de manière à ce que vous puissiez les identifier. Et puis, bon, évidemment, il y a les travers de chacune des erreurs, mais il y a aussi ce qu'on peut faire pour sortir de ce travers ou éviter le travers. Hein, c'est l'objectif, c'est de construire. La première erreur, c'est d'employer des noms d'oiseaux pendant qu'on se dispute. Pas la peine que je donne d'exemple. Je pense, c'est clair. Éviter d'employer des noms d'oiseaux. Et quand on emploie des noms d'oiseaux, c'est parce qu'on a comme objectif d'humilier l'autre ou, parce qu'on ne peut pas trop écraser sur la tête de l'autre, de se relever par rapport à l'autre. Donc on est dans un jeu de comparaison dans lequel on est dans un rapport de force finalement. On traite l'autre, oui, mais de toute façon, toi, tu es. On va l'enfermer dans des boîtes, dans des cages, en essayant de le minimiser finalement, de le toucher dans son intégrité. Eh bien ça, c'est vraiment même pas la peine que je vous donne mon avis là-dessus, je pense que vous le saviez déjà. Et généralement, quand on veut humilier l'autre avec des noms d'oiseaux, ben c'est réussi. Je connais. Et je dirais, malheureusement, c'est réussi. Parce qu'en fait, il y a des dégâts qui sont causés et l'emphase sur laquelle je voudrais aller maintenant, c'est que quand on casse quelque chose, où que ce soit, même quand on le répare, qu'il s'agit d'un objet d'abord, quand on le répare, on n'enlève pas de son histoire qu'il a été cassé. D'accord ? Donc si je casse un bol, que je le répare avec une super colle impeccable, etc., on n'enlève pas de son histoire que ce bol a été cassé. C'est valable pour un véhicule. Je me souviens que quand on vend un véhicule, on doit écrire, même si le véhicule est impeccable quand on le vend, on doit signaler s'il y a eu un accident avec le véhicule. Donc, quand un humain, un conjoint, a été blessé, cassé par un nom d'oiseau qui a été lancé, on sait que même si, entre guillemets, c'est réparable, et je dis bien entre guillemets, j'y reviendrai dans un instant, quelque chose s'est cassé. Or, comment fait-on pour réparer un humain ? Vous pouvez réparer votre conjoint, vous ? Non. Je ne peux pas réparer un humain. Je peux me réparer moi-même, éventuellement. Mais je ne peux pas réparer quelqu'un d'autre. Ce qui signifie que si vous avez employé des noms d'oiseaux et que quelque chose s'est brisé dans la relation, vous serez dans l'impuissance de savoir faire comment réparer. On ne sait pas réparer. On n'efface pas ce qui a été dit. On peut dire oui, mais oublie, non, je retire. C'est très joli à dire. Mais en fait, on ne retire rien du tout. Ce qui a été fait est fait. Ce qui a été dit est dit. Mieux vaut donc être conscient qu'on n'efface pas ce qui a été dit ou fait dans le but de choisir ses mots. Donc moi, je recommande vivement qu'on ne prononce aucun nom d'oiseau. On ne traite pas son conjoint, jamais. Même pas, oui, mais je l'ai fait qu'une fois. Non, même pas une fois, zéro fois. peut-être est-il nécessaire que vous disiez à votre conjoint, j'ai pris la décision de ne plus t'insulter quand on se dispute. Je trouve que c'est humiliant pour toi et j'ai choisi de... Bref, comme vous vous semble. Moi, je souhaite vraiment que vous le fassiez. Que vous le disiez à votre conjoint ou pas, mais que vous décidiez de ne jamais plus employer de nom d'oiseau. Plus, fini. Deuxième erreur à éviter en cas de dispute, eh bien, c'est de fouiner dans le passé. Alors, erreur, oui et non. Fouiner dans le passé avec une comptabilité qui va avoir pour objectif d'aggraver la situation, finalement. C'est ça. Oui, en plus de ce que tu m'as fait l'autre fois, et de ce que tu m'as dit, et en plus de, tu as fait ça. Là, on est dans une recherche de facteurs d'aggravation. Dans un tribunal, on appelle ça des circonstances aggravantes. Voilà. On cherche des circonstances aggravantes pour donner l'impression à l'autre que ce qu'il a fait est vraiment grave, quoi, hein. C'est plus grave que tu ne l'imagines, hein. Utiliser le passé dans ce but-là, c'est vraiment une manière d'utiliser le passé pour asséner des coups à l'autre. Et ça, c'est aussi une erreur. On va voir qu'on peut utiliser le passé, mais pas comme ça. Je préfère qu'on utilise le passé pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et peut-être parfois pour interroger. J'ai vu que tu avais fait quelque chose là aujourd'hui qui me rappelle ce qui s'est passé la dernière fois. Comment, alors qu'on en a parlé la dernière fois, comment ça se fait que ça se reproduise? Ou est-ce que c'est moi qui ai l'impression que ça se reproduit, que ce n'est pas le cas? Quelle différence tu fais entre les deux? Vous voyez, là, je fais référence au passé dans l'objectif de construire quelque chose. Pas dans l'objectif de lui mettre un coup de batte de passé sur la tête. Batte de passé, c'est pas mal ça. Bah ! D'accord ? Troisième erreur. Cibler des personnes qui sont étrangères au couple, mais qui ont un lien affectif avec le conjoint. C'est-à-dire qu'en fait, oui, de toute façon, tu es comme ta mère. Ou bien, hey, tu es comme ton père. Ou bien, de toute façon, un tel m'avait dit que... Quel est l'intérêt, en fait, de faire ça? C'est d'aller chercher un poids qu'on va pouvoir mettre dans la balance pour encore aggraver la situation. Et puis, blesser davantage la personne parce qu'on va toujours trouver quelque chose, quelqu'un qui est en relation affective avec lui, en fait. D'accord ? C'est comme si vous visez le fils de monsieur, bah, vous savez que vous visez monsieur. Mais vous touchez à la mère de madame, vous savez que vous touchez madame. C'est aussi une chose que je propose d'éviter, c'est-à-dire que vous êtes en conflit, vous, avec votre conjoint, c'est entre vous et votre conjoint. Vous n'avez pas besoin de parler de sa mère, de son oncle, de sa tante, de sa copine, de sa petite amie, etc. C'est juste entre vous. Vous et vous. Voilà, tout simplement. Deux personnes adultes qui se disputent, qui ne sont pas d'accord et qui discutent pour apprendre à se comprendre. Et pas pour apprendre à avoir raison, pas pour écraser l'autre, pas pour humilier l'autre, pas pour le blesser l'autre, mais pour apprendre à se comprendre, à se connaître. Quatrième erreur à éviter, eh ben c'est d'exagérer la réalité. Dire des choses que l'on ne pense pas. L'objectif est d'aggraver aussi là, hein, sa propre blessure cette fois-ci. Pas d'aggraver la faute de l'autre, mais d'aggraver sa propre blessure. Et en fait, tu fais ça, mais tu te rends compte que moi, ça me fait ça, et ça me fait ci, et ça, et ça, et ça, et ça. Et voilà, comme ça, moi, je comprends que ce que tu as fait, que tu as l'impression de vouloir minimiser, c'est beaucoup plus grave que tu ne peux l'imaginer. Ce que je vis est encore plus grave que tu ne le penses. Je vous invite à écouter l'émission qui s'intitule « Grave ou pas grave » que j'ai enregistrée il y a quelques semaines et qui peut vous permettre peut-être d'avancer là-dessus parce que vous avez commis une erreur si vous êtes dans cette dynamique-là. Une erreur parmi ces 10 erreurs. Exagérer la réalité va avoir pour conséquence que votre conjoint saura que vous exagérez la réalité. Alors vous avez envie d'augmenter sa culpabilité, de le manipuler pour qu'il se sente encore plus coupable que coupable. Mais ça peut marcher parfois. Oui. Si vous êtes un manipulateur, si vous êtes un petit peu pervers, oui, ça peut marcher. Mais vous savez que ce n'est pas vrai, et donc ça va avoir un impact sur votre estime de vous-même. Et puis, vraiment, vous mettez de l'huile sur le feu pour quoi ? Dans quel but ? Pour être gagnant ? Gagnant de quoi ? Pour sortir votre ego ? Dans quel but ? Je vois pas trop. Évitez d'exagérer la réalité, essayez d'être au plus juste, de vous entendre vous-même. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Et d'être au plus juste dans ce que vous allez verbaliser. Cinquième erreur à éviter, eh bien, c'est celle qui consiste à fuir les torts partagés. Je ne voudrais pas continuer plus longtemps, parce que je vois que ça fait quand même déjà plus d'un quart d'heure qu'on est ensemble. Et je me dis, peut-être que je vais présenter celle-là pour la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'elle est coupée en deux en fonction du temps qui m'a été imparti. Voilà, on va s'arrêter sur le fait de fuir les torts partagés la semaine prochaine. Et puis, on va aussi s'arrêter sur une autre erreur qui consiste à penser que c'est à l'autre de faire le pas. J'ai aussi noté le fait de refuser de différer certains sujets de la dispute, le fait d'avoir peur de la dispute, le fait d'utiliser de fausses excuses et de ne rien apprendre de soi ou de l'autre pendant la dispute, parce qu'une dispute, comme on l'a dit, elle a pour objectif d'être utile. Donc je propose d'arrêter là, je vous ai déjà donné bien des choses. Prenez déjà avec ces 5 premiers pièges, et puis on continue volet numéro 2 la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme « Partager » et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.